RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec le maître Yoduk qui est de retour en France, le docteur Love, il est là avec moi. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ah, tu l'as pris le choc thermique alors, hein, ça y est.
Bah, franchement, pas tant que ça. Ouais.
Pas tant
moi,
que ça.
Il
ouais.
va faire, je sais pas, je crois qu'il va faire 14 ou 15 méfie-toi cet après-midi.
Quand même,
hein. Donc,
ça peut chuter, méfie-toi.
Ça peut chuter, c'est vrai.
On est content et ravi de te retrouver. Hein.
Oui, t'as fait un de retrouver un peu de réseau. Moi, tu peux pas savoir à quel point ça change la vie de retrouver du wifi.
C'est sûr.
Oh, c'est dingue.
Vous continuez de nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur le Club RMC Running, sur Strava, sur Instagram, sur YouTube désormais, hein, parce que tout le défi Marathon de Paris est disponible sur la chaîne RMC Sport sur YouTube. Il y a un rail, une série de vidéos consacrées au Marathon de Paris via RMC Running, donc allez-y, suivez ça et laissez des commentaires. Un sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la course à jeun, Johan, parce que le Ramadan 2025 démarre officiellement aujourd'hui. Cette période quotidienne de jeûne à respecter quotidiennement donc par les musulmans, du lever du jour au coucher du soleil. On va donc rappeler les fondamentaux de la course à jeun, préciser les bénéfices, les risques, les adaptations nécessaires en termes de pratique, de fréquence, d'intensité. Et pour en parler avec nous, deux amis d'RMC Running, Violette Duval, nutritionniste qu'on va recevoir. On l'a reçue déjà il y a quelques semaines, Violette, pour un sujet nutrition. Et puis un autre ami, un recordman du monde RMC qui est là aussi dans ce studio, c'est Ilias Zouri, docteur Isa, notre spécialiste d'anatomopathologie. Tu pourras nous rappeler ce que c'est d'ailleurs, Johan, l'anatomopathologie. On
oui.
va se régaler. Excellent coureur, Ilias, vous le connaissez, 2h21 au marathon, 5e du marathon des Sables 2023. Il va nous parler lui aussi de la façon dont il s'adapte à cette période si particulière. Et puis on aura un bon plan en fin d'épisode. La marque Flitex sera à l'honneur, le spécialiste des vêtements de compression. On en parlera avec un des responsables de la marque, Hugo Huil. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On parle estomac vide aujourd'hui.
RMC Running.
Et ils sont là avec moi en studio, Violette Duval, nutritionniste, qui encadre notamment des athlètes du Stade français. Salut Violette.
Salut.
Déjà de retour dans RMC Running, magnifique. Bah écoute, sois la bienvenue. Tu étais à Séville d'ailleurs le week-end dernier, toi aussi.
Exactement, oui. J'ai accompagné des athlètes, des copains.
Des athlètes, des copains, que tu as encadré, encadré leur nutrition, ils ont atteint l'objectif, donc bravo, tu as fait le job.
Accompagné sur la course, pendant la course aussi? Tu as couru avec eux?
Non, moi j'ai pas couru, enfin juste.
Ouais, c'est un faux accompagnant.
Pour aller encourager quoi.
Porte le sac à dos, ouais.
Exactement, ouais.
Elle est nutritionniste, elle donne les ravitaux. qu'est-ce que tu demandes toi? Bien sûr, c'est ça
vrai,
la priorité. Et Ilias Zouri est là, on est ravis de te recevoir, Ilias d'ailleurs.
Moi ça aussi, va, merci pour l'invitation. Ouais, ça va très bien.
Avec plaisir, ça court toujours autant, je vois ça.
Toujours, un petit peu moins, mais toujours pas mal quoi.
Cet amour du tapis, c'est fou.
Du tapis, ouais, c'est ça.
C'est fou, les défis dingues. Qu'est-ce que t'aimes ça, le tapis de course, c'est dingue.
Mais il faisait froid cet hiver aussi.
Enfin là, il fait plus froid.
Non, là, ça va.
Sort, là, ça y est.
Tu vas faire comme Ilias, 48 heures sur un tapis avec.
Riles. Ah ouais, ah ouais, quel défi dingue.
Quand même pas.
Tu serais capable de le faire. Hein. Ça me choquerait pas que tu fasses ça, toi, Ilias.
Peut-être un jour, on verra.
C'est sûr, mais je suis sûr à une vitesse plus rapide. Hein. Ça, c'est sûr. Bah, écoute, on est ravis de te voir. On t'a pas vu depuis le record du monde. Bah, ça va, tout va bien?
Ouais, ça va.
Pratique sportive toujours au top?
La pratique sportive toujours bien, ouais. Là, j'ai arrêté les trails. Je suis passé maintenant sur route.
Ça y est.
Ouais.
T'en as marre des bosses?
Non, c'était super galère de s'entraîner pour le trail à Paris.
Ouais. Eh oui, c'est le cadre de vie qui n'était pas
trop
favorable.
Adapté, ouais.
Et tu retournes sur la route, Johan, avec des objectifs ambitieux, attention. Tu vas les dévoiler ou pas, Ilias?
Le marathon de Valence l'an prochain, en décembre 2025, j'aimerais bien faire sous les 2h20.
Ouais.
Et avant ça, je vais faire un 10 km, sûrement celui de Manchester au mois de mai. Idéalement, essayer de passer la barre des 30 minutes, même si ça me paraît un peu ambitieux pour l'instant.
Bon, c'est jouable, Yodu, non?
Ah bah clairement, après Manchester en plus c'est une grosse course, hein. Donc là ça te laisse un peu le temps de bien le préparer, donc non c'est jouable, ouais.
C'est vrai ça, pourquoi Manchester?
Parce que ça tombait après le Ramadan déjà,
ah oui.
Et ça me laissait le temps de pouvoir récupérer et tout.
Ouais, d'accord.
En vrai t'as pas tellement beaucoup de 10K vraiment roulant, propre, sur la période après fin mai là. Hein.
C'est le 10K Paris pour faire un chrono, c'est pas le parcours idéal.
C'est un peu plus compliqué. Ouais.
C'est sûr. Écoutez, on est ravis de vous recevoir tous les deux, parce qu'on l'a dit, c'est une période particulière qui s'ouvre. On pense à tous nos auditeurs d'RMC Running musulmans, donc, qui vont entamer cette période du Ramadan, la période sacrée pour les musulmans, un des cinq piliers de l'islam, le jeûne du lever au coucher du soleil. Plus facile cette année, Ilias, parce qu'on est en heure d'hiver, quasiment sur l'intégralité du Ramadan. Ça veut dire que il y a quasiment une heure de jeûne en moins par jour, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Cette année, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Le matin, c'est à peu près 6h20, il me semble. Et le soir, la rupture du jeûne, ça va être vers 18h30 par là.
Voilà, donc ça simplifie un peu les choses. Ouais. Quand tu accumules une heure comme ça chaque jour, tu gagnes quasiment une journée sur l'ensemble du rabat.
C'est ça, exactement.
Donc c'est assez, c'est beaucoup plus facile.
Et même pour le sommeil, c'est beaucoup plus simple aussi.
Ouais. Violette, tu vas nous rappeler les fondamentaux, pas seulement du ramadan, mais de la course à jeun à proprement parler. Hein, pour ceux qui se lèvent le matin et qui n'ont pas le temps de prendre un petit déj et qui vont s'envoyer un footing, on va en parler dans un instant. Juste, Ilyes, toi qui es concerné, est-ce que tu appréhendes cette période ? Est-ce que tu apportes tout de suite des adaptations ou est-ce que tu le vis normalement et au final, bah, tu es tellement habitué que ça ne change pas grand-chose ?
Bah, sur les deux dernières années, j'ai fait toutes mes prépas spécifiques, donc celle pour le marathon des sables et ma prépa pour les trails l'an passé pendant le ramadan.
Ouais.
Du coup, j'ai dû m'adapter forcément. Le plus compliqué pour moi, c'était surtout le sommeil. C'est ça, ouais. Je trouve, qui m'apportait le plus de fatigue. Sinon, ce que je faisais, c'est surtout d'essayer de très bien manger le matin, prendre un vrai repas et le soir aussi. Mais après, en termes d'entraînement, je faisais peut-être un peu moins d'intensité, mais le volume global, je ne l'avais pas eu.
Tu touchais pas au volume, en revanche, tu réduisais l'intensité. Ouais.
Un petit peu l'intensité, ouais.
Ouais. Et le sommeil, pourquoi c'est dur ? Parce que tu le fractionnes, tu es obligé de te lever tôt pour manger le matin, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, parce qu'il faut, l'année dernière, il y a 2 ans, il me semble qu'il fallait se lever vers 4 heures du matin pour pouvoir manger.
D'accord.
Après, le soir, en général, je ne me couchais pas super, super tôt. Voilà, c'était un peu compliqué.
Et tu te contentes de 2 repas, du coup ? Tu fais un gros repas le matin, un gros repas le soir ?
Exactement, ouais. Okay. Ouais. Moi, c'est ce que je fais.
Et après, tu grignotes pas ou il y a pas de... S'il y a un peu
je grignote un petit peu, mais ouais. Bon, c'est pas... Je fais surtout deux très gros repas. Le premier repas, donc celui du matin, j'essaye de pas prendre de petits déj classiques, mais de vraiment manger. Par exemple, je prenais du riz, des pâtes...
Ok. Sympa. Ouais, ouais. À 4h du matin.
Ouais. Et le soir, pareil, dès la rupture, je prenais tout de suite un très gros repas.
D'accord. Tout ça, ça va être intéressant d'aborder ce sujet. À quelle heure on place les séances aussi ? Parce que est-ce qu'il faut les placer justement le matin quand on a encore le ventre un peu rempli ou alors juste avant la rupture du jeûne ? Johan, toi, dans le haut niveau, il y a des athlètes musulmans que tu connais qui pratiquent tout de même le ramadan ou qui malheureusement le mettent de côté pendant leur carrière ? Non, ça existe
encore ? Bah, j'en ai vu qui ont pu le mettre de côté quand tu arrives sur le grand championnat, quand la période c'était juillet-août et que tu avais le championnat du monde ou les Jeux Olympiques. Il me semble que j'ai eu vu ou entendu des athlètes qui l'aménageaient et qui le repoussaient à plus tard. Après, non, effectivement, c'est compliqué et c'est surtout la difficulté, c'est quand ça a lieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, en période d'été et qu'il fait chaud et que tu es complètement déshydraté. Comment tu veux faire, au-delà de ne pas manger et de ne pas forcément avoir de réserve, c'est l'hydratation, on en parle souvent dans le podcast, mais c'est quand même très important. Et c'est vrai que le risque de blessure, si tu t'entraînes de façon tout à fait normale, si tu adaptes pas ton entraînement, c'est impossible. Donc effectivement, pour les coureurs musulmans, il y a une adaptation à avoir par rapport à l'entraînement. Donc tu dois adapter, peut-être imaginer, là l'exemple est bon, tu vois, il va faire le 10 km de Manchester fin mai, il ne va pas faire les 10 km au mois de mars. Je sais pas, les 10 km de Lille sont très roulants au mois de mars, sauf que ça tombe en plein ramadan et donc c'est pas possible. Donc tu dois adapter ton entraînement en fonction de ça. Ouais.
Surtout que sur un 10 km, tu es dans l'intensité pure et dure. Tu n'es pas sur du fond et l'endurance fondamentale. Tu es obligé de rentrer dedans.
Après, pour le 10 km, en général, on ne boit pas et on ne prend pas vraiment de,
oui, y a pas besoin
de ravitaillement. Et souvent, les 10 km, c'est le matin. Donc à la rigueur, ça peut passer. Mais le problème pour moi, c'était surtout la préparation. Je ne me voyais pas faire une préparation spécifique pendant ramadan.
Bien sûr.
Ça va être un peu compliqué. Ouais.
Violette, allons-y sur les fondamentaux de la course à jeun. Est-ce qu'il y a des bénéfices déjà à courir à jeun ? Pas forcément pour ceux qui pratiquent le ramadan, mais pour ceux qui courent le matin comme ça, le ventre vide.
Globalement, on va avoir des bénéfices, mais ça va avoir un coût en termes de récupération. Donc après, c'est une question de choix. Même si on va légèrement améliorer l'oxydation des graisses du fait de courir sans avoir pris de glucides avant, c'est des adaptations qu'on peut aussi obtenir avec un volume d'entraînement à basse intensité assez important, donc en faisant beaucoup de sorties en endurance fondamentale. Et si on prend un petit déjeuner avant d'aller courir, on va en général mieux récupérer. Donc les bénéfices qu'on gagne d'un côté, on les perd de l'autre. Donc après, c'est des choix. Mais par contre, si on le fait, il faut faire attention à le faire correctement.
Parce que dans beaucoup de magazines, quand c'était un peu moins démocratisé le running, dans les plans d'entraînement, il y avait beaucoup de footing à jeun intégré à des prépas spécifiques. Johan, tu as forcément vu ça, mais systématiquement dans les programmes, c'est marqué. Tu le conseilles à tout le monde ou c'est vraiment au bon vouloir ? Il ne faut pas se forcer à le faire. Ça n'a pas un intérêt particulier, Violette ?
Moi, je trouve qu'il y a un intérêt qui est très restreint, donc je ne le conseille pas forcément. Après, quand les athlètes sont en demande parce qu'ils aiment bien ou parce qu'en termes de logistique, c'est plus facile pour eux, quand il y a des gens qui ont un emploi du temps qui est chargé, qu'il faut se lever tôt le matin pour aller s'entraîner, s'il faut digérer, oui. Ça va être compliqué. Donc, je le conseille pas, mais par contre, je peux l'encadrer de façon à en tirer les bénéfices sans avoir trop d'inconvénients. Mais on a une différence en tout cas entre le jeûne du ramadan où oui, on ne peut pas boire.
Des jours consécutifs et en plus tu ne peux pas boire.
Exactement. Alors que par exemple, si on part à jeun, ça ne veut pas dire qu'on va rester à jeun toute la sortie.
Ouais, d'accord. C'est vrai que une fois que le jour s'est levé, si jamais vous n'êtes pas dans le cas de figure de pratiquer le ramadan, bah forcément vous pouvez vous hydrater et ça, ce n'est pas forcément un problème de partir à jeun. Tu peux prendre un gel, tu peux prendre des gommes, tu peux prendre des choses.
Exactement.
À ce moment-là, ouais. Ilias, tu t'y prépares à cette période ? Tu t'anticipes quelques jours avant ou non, tu t'attaques ça?
Non, pas du tout, j'attaque ça directement.
Voilà, jusqu'au bout. Je mange jusqu'au bout, puis après c'est parti. Quoi. C'est
ça. Non, mais peut-être que la semaine avant le ramadan, j'essaye de bien manger pour me faire un petit peu de réserve. Mmh. Et en général, je trouve que le début du ramadan, c'est pas très compliqué. Je trouve que les premiers entraînements, les premières semaines, ça va. Je sens pas trop de fatigue. Ce qui devient vraiment compliqué, c'est la fin du ramadan.
C'est donc l'accumulation. Troisième semaine, quatrième semaine. Ça dure un mois, hein, d'ailleurs. Je sais pas si on l'a dit. Mais...
Ouais, c'est ça. Mmh. C'est un mois. Je pense que c'est multifactoriel. C'est peut-être qu'au fur et à mesure du ramadan, il y a un déficit calorique qui s'installe et aussi le manque de sommeil.
Ouais. Tu souffres de quoi principalement? C'est la soif, l'hydratation qui te manque le plus?
La soif, pendant l'hiver, non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vraiment soif. Quand c'était l'été, ouais, là, c'était quand même très compliqué. Par exemple, l'année dernière, comme j'étais en prépa trail, je faisais des sorties longues. Ça m'est arrivé, je crois, de faire des sorties de 3h, 4h l'après-midi. Ouais. Et effectivement, à la fin, j'ai un peu soif, mais ça va encore. C'était surtout une fatigue générale.
Tu dors jamais la journée pendant cette période?
Comme je travaille, non.
Ouais, c'est en fonction de ton activité. Quoi,
le week-end, ouais, ça m'arrive, mais sinon, non.
Ouais. Donc là, c'est pas un moyen aussi de récupérer avec une sieste de temps en temps. Johan, tu le faisais un peu au moment où on avait démarré le podcast RMC Running, les footings à jeun. Tu le fais plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs.
Là, pour le coup, ouais, tu vois, je suis allé au Kenya. Et d'habitude, Kenya, je le faisais beaucoup parce que les coureurs kenyans le font beaucoup. Et t'as le choix d'aller avec les groupes à 6h ou les groupes à 9h qui, eux, le font pas forcément. Et là, moi, cette année, j'ai tout fait avec les groupes qui partaient à 9h. Et donc, je faisais rien à jeun. Donc, effectivement, cette année, j'en ai pas fait parce que c'est vrai que je trouvais... je trouvais que ça fatigue, quoi. C'est-à-dire que le risque de fatigue, de la réduction de performance, il est quand même important parce que tu sais que tu as quand même moins d'énergie. Moi, je ne suis pas trop du matin, donc si en plus je ne déjeune pas, j'ai l'impression d'être un peu dans le gaz. Donc, tu ne peux pas placer des séances, tu fais juste des footings en endurance fondamentale. Et le problème des footings... en endurance fondamentale au Kenya, c'est qu'en fait, il n'y en a pas trop parce que le parcours fait que c'est compliqué, il y a beaucoup de dénivelé, ça bastonne un petit peu. Donc du coup, je privilégie le fait de prendre un petit-déj assez léger, mais de ne pas partir, le ventre vide pour ne pas avoir cette sensation de faiblesse. Comme quand t'es à jeun. Alors après, ça peut m'arriver quand j'ai pas le choix. Par exemple, je sais pas, j'ai un rendez-vous de 9 à 12, j'ai un shooting photo ou un truc, n'importe quoi, ou un tournage. Parce que voilà, et du coup, tu vas à jeun, tu vas forcément tôt. Mais c'est vrai que je le fais de moins en moins, ouais.
T'étais venue, Violette, pour le sujet du poids idéal, du poids de forme, je me souviens bien. Est-ce qu'il y a un risque de perte de poids sur cette période pour ceux qui pratiquent le jeûne sur plusieurs jours d'affilée?
Oui, parce que la perte de poids, elle va être définie par la balance énergétique. Donc si le fait de réduire la fréquence des repas et de passer par exemple sur un rythme de 2 repas par jour, ça réduit l'apport calorique total, on risque d'être en déficit énergétique et donc de perdre du poids.
Et là, il faut être vigilant particulièrement? C'est un indicateur, la perte de poids, si elle est trop significative?
Oui, parce que très vite, on va avoir du coup des soucis au niveau de la santé. C'est pas bon de perdre du poids trop rapidement. Mm-hmm. Et en général, on va surtout avoir une perte de muscle. On perd pas seulement de la graisse. Plus on perd du poids rapidement, plus on a un risque de fonte musculaire. Et donc, ça va se retraduire ensuite par la performance sur la suite.
Tu fais attention à ça, toi, Ilias?
À la perte de poids?
Ouais.
Pendant le ramadan, en général, je perds du poids. Enfin, en tout cas, les deux dernières années, j'ai perdu du poids, forcément. Même si j'essaie de bien manger le matin et le soir, je pense que si on regarde les apports caloriques sur la journée, il reste inférieur.
Ouais.
Voilà.
T'as une idée, tu te pèses un peu, tu sais combien de poids, combien de kilos tu perds sur, sur un ramadan?
L'année dernière, non, je me suis pas pesé, il y a 2 ans, pour la prépa marathon des sables, je crois que j'avais perdu 2 kilos.
Ok, sur l'ensemble kilos. D'un mois.
Ouais, je crois que c'était ça.
Ok, et tu l'as ressenti, tu te ressentais physiquement que t'étais plus léger, mais
plus léger, non, muscles, pas forcément, c'était jusqu'à la fin, je me rappelle que je me sentais un petit peu fatigué.
Ouais.
Et le ramadan s'était terminé, je crois, 1 ou 2 jours avant le départ du marathon des sables. Et j'avais profité de ces 2 jours-là pour manger vraiment à fond.
Pour recharger. Ouais.
C'est ça, ouais.
T'arrives à te remettre rapidement, en revanche, lorsque la période se termine, et est-ce que tu reprends rapidement les grammes, les kilos que t'as perdu?
Les kilos, je sais pas, parce que je me pèse pas régulièrement, moi.
Ouais.
Mais la forme, en général, je récupère peut-être 5 jours, 1 semaine, après ça revient.
Ok. L'autre élément clé, c'est comment on place les séances pendant cette période, Violette. Quel est le bon conseil? Le mieux, c'est quoi? C'est de retarder au maximum la séance pour être le plus proche possible du repas et de la rupture du jeûne?
Dans l'idéal, il faut effectivement qu'on ait une prise au moins hydrique à proximité de l'entraînement.
Ouais.
Si possible, comme cette année, parce que le ramadan est assez... la rupture du jeûne est assez tôt dans la soirée, ça va être de s'hydrater au moins et d'avoir au moins une petite prise glucidique si c'est pas un repas complet, faire sa séance et ensuite faire un bon repas de récupération. Ça peut être une bonne stratégie parce que l'horaire le permet. Après, forcément, en fonction des années et des horaires, on est obligé de s'adapter. Si c'est pas trop tôt le matin et qu'on est du matin aussi, parce qu'on ne peut pas non plus forcer tout le monde à se lever à 4h30, ça peut être une solution aussi de boire un petit peu, d'aller faire un footing. Tout est possible, mais c'est vrai que dans l'idéal, on essaie d'avoir de l'hydratation avant d'aller faire sa séance.
Comment tu les places, tes séances, à ce moment-là, alors?
En général, je les place en fin de journée, juste avant de manger.
Voilà.
Ça reste pour moi l'idéal, mais après, ça m'arrive parfois de courir aussi le matin ou le midi. Là, pour le ramadan qui vient, j'ai prévu de faire les entraînements en fin de journée, juste avant de manger. Et comme je double 1 à 2 fois max par semaine, je pense que les jours où je doublerai, je ferai un entraînement vers 16h, et vers 15h plutôt, et le deuxième entraînement vers 22h, 22h30.
Ah, donc tu vas t'entraîner, tu vas te...
Je mange.
Tu vas manger.
Je me repose un peu.
Et tu vas t'entraîner de nouveau le soir, une fois que tu auras mangé et bu, quoi.
C'est ce que j'ai prévu, mais je sais pas, on verra.
c'est
une fois
programme.
Par semaine, ouais.
Ouais, c'est le programme sur le papier, on verra si ça tient, quoi.
C'est ça, ouais.
Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte, c'est important, mais c'est bien ce que dit Violette, c'est que parfois tu peux t'entraîner, c'est le moment de la rupture du jeûne arrive, t'as peut-être pas forcément d'appétit parce que tu viens de terminer l'entraînement. Est-ce que ça t'arrive, comme dit Violette, juste de boire, de manger un petit truc et puis d'attendre pour le gros repas, de laisser passer 1 heure et ensuite d'aller manger vraiment un gros repas?
Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et parfois, ce que je faisais aussi, c'est que je calais des séances quand j'avais des grosses séances d'intensité. Je calais la séance pile poil, à cheval, avec l'heure de la rupture du jeûne. Par exemple, je faisais l'échauffement à jeun.
Ah oui.
Et après, c'était l'heure de la rupture, donc je mangeais un tout petit peu. Et j'attaquais directement sur l'intensité. Et du coup, juste après l'entraînement, je me rechargeais un petit peu. J'attendais 1 heure, 2 heures. Après, je prenais mon...
Et ça peut pas créer repas. Un pic d'hypoglycémie, tu vois. Il a été à jeun toute la journée. Il s'envoie une séance. Il est en plein échauffement. Je sais pas, il va consommer un peu de sucre ou de la boisson comme ça. Ça va pas faire, tu vois, cette espèce de schéma qu'on voit habituellement. Ça peut pas être contre-productif?
Pas forcément, parce que l'hypoglycémie réactionnelle avant l'effort, en fait, elle est très très faible. Et il n'y a pas forcément de corrélation entre l'effet ressenti du coup de mou parce qu'on a pris des glucides et l'impact sur la glycémie réelle.
Ouais.
Donc c'est pas forcément problématique. Et puis comme on n'est pas sur des grosses quantités non plus, la glycémie, elle va pas faire les montagnes russes non plus. Elle va juste monter un petit peu. De toute façon, après une période de jeûne, elle est forcément basse. Donc ça va plutôt lui permettre de remonter à son niveau normal. Plutôt que de faire un énorme pic de glycémie. Donc au contraire, c'est plutôt bénéfique. C'est un petit peu comme le principe de la boisson d'attente. Quand on a pris son petit déjeuner 3 heures avant une course, qu'on prend une petite boisson d'effort dans le sas, finalement, on va avoir un petit peu le même effet. Et si on prend donc cette petite collation alors qu'on s'est déjà entraîné, là, on est déjà physiologiquement dans un rythme d'effort. Donc il n'y a plus du tout ce problème-là. La consommation de glucides est déjà entamée, donc ça va vraiment être utilisé sans faire monter la glycémie.
Et yes, on a bien fait de t'inviter parce que tu as tout testé. Le matin, le soir, les doubles séances, juste avant, le pendant, le truc. Au moins, t'as tout essayé. Sur les questions concrètes, parce que c'est ça qui va intéresser ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on met dans ces repas? Parce qu'ils sont moins nombreux, donc il y a 2 gros repas par jour. Qu'est-ce qu'on y met là-dedans, alors, Violette? Quels sont les bons conseils?
Alors l'idée, c'est d'avoir de tout, forcément, d'essayer de conserver au maximum une alimentation équilibrée. Comme on va avoir assez peu de prises alimentaires, il faut faire quand même attention aux protéines, aux glucides, et puis de conserver quand même des fruits et légumes, ouais. Parce qu'en général, sur la rupture du jeûne, on va être attiré par des aliments qui sont assez caloriques, assez denses, même parfois un peu festifs, hein, dans le cadre du ramadan. Mm-hmm. Et donc de conserver quand même une alimentation qui reste structurée, avec suffisamment de fruits et légumes. Mais je pense que ce qui manque le plus la plupart du temps, c'est les protéines en quantité suffisante, parce que comme on n'a pas trois repas par jour, c'est bon, on ne va pas multiplier par trois sur le repas du soir, par exemple.
Du coup, tu es encore plus vigilant à ce que par rapport à ce que tu manges pendant cette période?
En tout cas, pour les protéines, je me supplémente en plus de...
Okay.
En plus, je prenais des shakers de protéines en poudre.
Okay.
Et j'évite de faire... parce que là, surtout là, avec le ramadan en hiver, il y a pas mal de personnes qui prennent un petit goûter pour le...
À 18h.
C'est ça. Et après, ils prennent un vrai repas 2h-3h après. Mais après, ça, j'évite de le faire.
Ouais, parce que pour t'endormir, après, c'est...
Ouais, j'évite de le faire. En plus de ça, en général, le goûter, c'est que... Enfin, on mange que des sucres rapides. Ça, j'évite de le faire, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que tu mets concrètement dans un repas, alors?
Classique, hein, du riz, des pâtes, de la viande, enfin, truc classique, quoi.
T'arrives à conserver des fruits, légumes, tout ça?
Ouais, ouais.
Mmh. Ouais. Et à systématiquement, même le matin, quand tu te lèves?
Le matin, pas forcément. Les fruits, ça dépend, c'est variable, mais systématiquement, je me fais un vrai repas le matin.
Mmh. Est-ce que c'est conseillé, ça, de faire un apport de protéines avec du shaker, ce genre de choses, en plus, pendant cette période?
Oui, de façon générale, si on manque de protéines dans l'alimentation, le complément alimentaire type protéines en poudre, ça peut être une bonne solution. Mmh. Donc, tant que c'est complété avec des protéines, on va dire, entières, issues des aliments, ça pose aucun problème.
Est-ce qu'il y a des aliments et des boissons à risque? Moi, je pense à la caféine. Est-ce qu'il faut réduire la caféine pendant le ramadan? Est-ce qu'au contraire, il faut en consommer? Parce que là aussi, c'est particulier. Est-ce que tu bois du café, toi, d'ailleurs?
Non, jamais.
Non.
La seule caféine que je prends, c'est pendant les entraînements.
Ouais, d'accord. Pour ça, ça met un boost de caféine.
Mais en dehors, non, jamais.
Quel conseil on peut donner par rapport à ça?
Bon, la modération, comme dans tout. Après, évidemment, la caféine, on va plutôt la consommer le matin, parce que si on la consomme sur le repas du soir ou en tout cas en fin de journée, on va altérer encore plus le sommeil. Et comme tu le disais, si c'est déjà une période où le sommeil est un peu altéré, donc on va limiter la caféine le matin. Et puis avec une bonne hydratation, une prise alimentaire, ça pose aucun problème.
Tu te fais pas de petits plaisirs? Je sais pas, t'as pas envie de frites, de trucs, de...
Ah si, si, moi j'ai quand même... Oui, bien sûr.
Tu fais attention ou non? Tu gardes quand même des petits kiffs, quoi.
Non, j'ai pas vraiment de régime strict, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Je sais que je vais prendre mes repas, mais après, oui, ça m'arrive souvent
de
prendre...
Oui, mais c'est peut-être une période propice à des envies particulières. Tu vois, la journée, t'as pas mangé, tu te dis, ce soir, j'ai envie de me faire ça, quoi, par exemple.
Alors, on a très faim le soir, effectivement. En tout cas, moi, ça, c'est mon expérience perso. Mais je sais que dès que je commence à manger, je cale très, très vite. Et je crois que c'est pour ça que pendant le ramadan, je perds du poids. Parce que le soir, je n'arrive pas à me faire des très, très gros repas.
Ouais. Et ça, c'est lié à quoi, alors? C'est l'estomac qui se rétrécit? C'est psychologique? On sait pourquoi ça se passe comme ça, d'ailleurs?
Ça peut être plein de facteurs, mais c'est vrai qu'en général, quand on ne mange pas pendant une certaine période, la faim se dérégule, les sensations de faim peuvent changer. La sensibilité des nerfs au niveau de l'estomac, elle peut changer aussi. Donc l'estomac ne grandit pas ou ne rétrécit pas, mais on peut avoir une différence de sensibilité et du coup être calé plus rapidement face à l'étirement de l'estomac quand la nourriture arrive. Mmh. Et puis après, physiologiquement, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut même être influencé par la vitesse à laquelle on mange. Souvent, quand on a très faim, on mange très vite. Et donc, soit ça peut entraîner à manger plus, soit au contraire, avoir un effet de lourdeur qui intervient très rapidement. Et puis, il faut faire une pause et attendre un petit peu avant de pouvoir remanger.
En fait, il attend toute la journée. En 5 minutes, c'est réglé.
C'est ça, ouais.
C'est ça le truc. En fait, terminé, plus fin. C'est comme ça que ça se passe, ouais.
Enfin, déjà, moi, je mange très, très vite. Ah, donc, pendant ramadan, c'est encore plus vite.
Donc, tu fais 3 heures de séance, mais tu manges en 5 minutes, quoi.
C'est ça, ouais.
Bon, ça, c'est tout l'aspect nutritionnel. On va parler de l'hydratation. Et puis, coach, on parlera aussi de tout l'aspect course à pied pur et dur. Parce que comment on s'adapte, l'intensité qu'on met, est-ce qu'on pratique des compétitions pendant cette période? Tout ça, on l'aborde dans un instant. Mais donc, l'hydratation, est-ce que là aussi, t'es plus vigilant particulièrement? Est-ce que tu bois que de l'eau? Est-ce que tu te forces, je sais pas, à boire 1,5 litre ou 2 litres par jour pendant cette période?
J'essaye de bien boire le matin, en général, de l'eau, ou alors je mets un peu d'électrolyte parfois.
Ouais, quand même, ouais.
Ouais, je sais pas si c'est vraiment efficace. On verra
avec la chef.
Mais ouais, j'essaye de bien boire le matin. C'est marrant parce qu'au début du ramadan, le corps n'est pas vraiment adapté à ça. Ça fait que quand je retourne dormir,
après la manger,
ah ouais, je me réveille systématiquement. Le matin, je vais une dizaine de fois aux toilettes.
Ouais, c'est sûr.
Mais après, au bout de quelques jours, c'est bon, ça passe. Ça.
Ouais.
Et le soir, c'est pareil, j'essaie de bien m'hydrater. Et je pense que finalement, je bois plus pendant le ramadan que hors ramadan.
Ah ouais?
Parce que hors ramadan, je fais pas trop attention.
Parce que tu y penses.
C'est ça, ouais.
Les électrolytes, c'est une bonne idée?
C'est pas toujours nécessaire, mais en fonction du contexte, par exemple l'été quand il fait très chaud et qu'on va avoir beaucoup de pertes par la transpiration, ça peut être intéressant, notamment si on boit beaucoup d'un coup, par exemple le soir, en fin de journée.
Et sur la consommation quotidienne, tu conseilles ça? 1,5 litre, 2 litres, malgré tout?
Comme ça dépend du poids, de la taille, de l'activité physique, de la température extérieure, je le fais plutôt à la couleur des urines. C'est un peu trivial, mais ça fonctionne bien.
Ouais, c'est un bon indicateur ça, quand même.
Ouais. Moi, je regarde pas trop, mais oui, je pense que...
Ouais. Tu regardes de rien. Ok. Non, mais c'est bien d'avoir ton retour d'expérience, parce que toi, tu l'as vécu plusieurs fois, et puis tu peux t'adapter. Je le disais, pas d'appréhension. Ça reste malgré tout une période particulière sur ta saison de course à pied. T'es vigilant, c'est une période comme une autre, t'as hâte que ça se termine. Comment ça se passe une fois que t'es dedans?
Non, c'est pas une période comme une autre, forcément. Déjà, s'il y a des compétitions, c'est très très compliqué, sauf si c'est des distances très courtes, genre du cross qui se court le matin.
T'as fait le marathon de Paris pendant un ramadan, il y a quoi, 1 ou 2 ans je crois.
Ouais, avant le marathon des sables, mais c'était pas, enfin je l'ai fait,
fait en entraînement.
C'était en entraînement, ouais.
Ouais. Voilà. Bah, tu l'as fait quand même.
Mais c'était compliqué quand même. Ouais. J'ai eu bien soif pendant toute la journée. Mais oui, donc je disais que s'il y a des compétitions pendant le ramadan, c'est compliqué, en dehors de courtes distances qui se courent en plus le matin. Ça peut passer. Mais ce qui pose vraiment problème, c'est de caler les séances spécifiques, enfin les vraies séances d'intensité, de fractionner. Et je sais que ça, j'ai jamais vu, mais on m'avait dit que au Maroc, par exemple, il y avait pas mal d'athlètes, des pros, qui décalaient complètement leur journée, qui s'entraînaient très tard le soir, ils éclairaient le stade et tout, et ils faisaient leurs séances de fractionner très tard le soir.
Donc ils faisaient la rupture du jeûne, ils digéraient, ils faisaient leurs séances, et après ils allaient se reposer et ils dormaient la journée.
Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Je ne l'ai jamais vu, mais voilà.
Okay. Il faut une vie adaptable. T'avais déjà entendu ça, Yohan, toi?
Bah, ça paraît logique, je l'ai déjà entendu, Bah, c'est plus simple, enfin c'est presque le plus simple à mettre en place, C'est de vivre la nuit, de s'entraîner la nuit et de dormir la journée,
Bon, après, est-ce que tu dors la journée, est-ce que ça a vraiment un sens?
C'est toujours pareil.
c'est toi et ta morale à un moment,
c'est ça.
À un moment tu le fais aussi un peu pour souffrir, j'imagine, est-ce que ça a un sens de dormir toute la journée?
Non, je pense que ça a pas.
Tu dors 9h à 17h, c'est vrai que c'est moins dur, forcément.
Enfin, si on inverse tout, non, ça va pas.
Non, mais ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Yohan, en termes d'entraînement? C'est l'adaptabilité, c'est déjà faire confiance à ses sensations.
Exactement, c'est de faire adaptabilité, c'est le mot. C'est vrai que par rapport à l'entraînement, là tu peux pas avoir un plan d'entraînement strict et pas modulable, tu vois, en fonction des sensations, en fonction de comment ça se passe, comment tu tolères le ramadan et tout. Donc ça c'est le plus important. Et puis après c'est le voir comment tu sors des séances, parce que des fois tu peux sortir totalement KO avec une baisse d'énergie assez forte, tu vois, et le lendemain repartir sur une séance de fractionné ou autre. Du coup, c'est pour ça qu'il faut peut-être privilégier une période de développement, plutôt de kilométrage, d'endurance fondamentale, des trucs où tu mets peu d'intensité, ou alors des intensités très courtes avec peu de répétitions, mais pas une période sur laquelle tu vas faire une préparation spécifique marathon, spécifique semi ou spécifique 10K, où là, ça va être un peu plus compliqué de gérer. En plus, on se connaît les athlètes, on est sans arrêt la tête sur le chrono, et quand tu vois que les chronos sont pas bons parce que tu es fatigué, mentalement, tu sais, ça te perturbe ça dans une préparation. Donc effectivement, tu peux pas programmer une compétition ou programmer un vrai objectif dans cette période-là, Il faut éviter tout ce qui est vraiment trop intense, quoi.
Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut anticiper et choisir ses compétitions en fonction. Après, c'est pas forcément possible pour tout le monde.
Non, mais t'en tiens compte dans ta planification, peut-être.
Ouais, dans la planification,
c'est des dates
en tout cas,
connais,
moi, là,
En gros, je crois que c'est décalé de 15 jours tous les ans.
11 jours, à peu près.
11 jours, donc ça avance d'une dizaine de jours tous les ans.
C'est ça.
Donc, plus le temps passe, les plusieurs années sont passées, parce que vous avez vécu, donc, août, juillet, juin, mai.
Mais avant venir.
Oh, mais t'as un peu de temps, non?
C'est ça.
Ouais, t'as un peu de temps, puis là, après, tu vas attaquer les journées qui se terminent à 17h, donc ce sera plus simple aussi.
Ouais, là, ça va être
vraiment
simple.
Quand tu planifies ta saison, tu tiens compte de ça, et ton objectif principal, c'est Valence, donc on est très loin de l'objectif.
Ouais. Et c'est pour ça aussi que cette année, j'ai pas du tout planifié de compétition là.
T'as pas fait de marathon de printemps type marathon de Paris quoi, c'est
pour ça. Non.
Ou
non.
Marathon Londres ou Rotterdam.
Aucune compétition,
ou...
même les crosses, j'ai pas voulu me.
Ah même le cross, ouais, t'as pas voulu y aller. Ouais.
Non.
Ok, c'est bon,
ouais.
C'est lié à ça du coup.
Ouais, en partie ouais.
Est-ce que tu conseillerais malgré tout, toi qui as de l'expérience, de faire des compètes préparatoires ou des compètes plaisir entre guillemets? Est-ce qu'on peut aller sur une compète mais juste pour le kiff quoi, tu vois ce
ah
que
oui
je
moi enfin ouais.
Faire
pour
le
moi,
y avait... Paris faire le je sais pas quoi le
oui pour moi il y a pas de enfin quand j'étais beaucoup plus jeune quand j'étais en cadet junior et tout
ouais.
Je faisais toutes mes compétitions les cross pendant le ramadan ça m'a jamais vraiment posé de problème enfin j'étais un peu moins performant c'est sûr mais j'ai pas eu de soucis particuliers par rapport à ça.
Parce que quels sont les vrais risques en fait? Si on met de l'intensité comme ça à l'entraînement, Violette, ok, on peut pas manger et boire comme on le veut, mais si on est malgré tout raisonnable dans sa pratique, il n'y a pas vraiment de risque en fait. Si
faut éviter l'hypoglycémie quand même, quand ouais. On n'a pas l'habitude et qu'on va sur des intensités un petit peu élevées, ça peut arriver.
C'est
hein.
Le coup de bambou là, c'est un peu ce qu'on ressent par exemple au 30e kilomètre d'un marathon. Quoi. C'est le fameux mur.
C'est un petit peu ça. Alors le mur, c'est plus l'épuisement du glycogène musculaire.
Ok.
Là, on va être vraiment sur une baisse de la glycémie à l'effort.
C'est quoi la sensation qu'on ressent alors?
Un peu de vertige, non?
Ouais.
Ouais, c'est ça, des vertiges, un peu des sueurs, le cœur qui tape, sensation de faiblesse.
Dérive cardiaque, c'est une indication quand on court à jeun, comme ça, par exemple?
Oui, alors en général, à jeun, il y a quand même une petite augmentation de la fréquence cardiaque.
Okay.
C'est peut-être pas le cachet de tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a fréquemment dit, en tout cas. Donc ça peut être lié et puis après de toute façon la déshydratation et la diminution du glycogène ça va entraîner une dérive cardiaque plus importante.
D'accord. Tu le ressens toi? Un changement au niveau de la fréquence cardiaque?
Oui, alors ce qui est marrant c'est que l'année dernière je m'étais amusé un petit peu à monitorer, enfin la fréquence cardiaque je la monitore quasiment tout le temps et pendant quelques mois je regardais un petit peu mes lactates pendant l'entraînement.
Ouais. Oui c'est vrai. Ouais.
Un peu par curiosité.
Tu te piquais toi-même le doigt?
Ouais c'est ça. Ouais.
Ok.
Et pendant le ramadan, c'est vrai que la fréquence cardiaque à allure, on va dire, équivalente, elle était un peu plus élevée et les lactates aussi.
Ok.
Ouais.
Et c'est lié à ça.
Et je
fait.
Crois que j'avais fait un peu de littérature, j'avais regardé un petit peu, j'avais vu que ça avait déjà été décrit. Voilà, je ne connais pas les mécanismes exacts, mais.
Bon, c'est ton côté scientifique, ça. Tu étais obligé de regarder.
Ouais, un peu geek, ouais.
Non, mais c'est ça, c'est sûr. Parce que, donc, on écoute ces sensations, Johan. Est-ce que malgré tout, si on est sur une prépa, par exemple, marathon de Paris, on se conserve des séances. Après, le marathon, c'est un exemple particulier, Johan, parce que on est sur des allures, entre guillemets, d'aisance. Ce qui est dur sur une prépa marathon, c'est le volume et le nombre de séances et la capacité
à
encaisser la répétition des entraînements.
Ça, c'est vrai.
C'est pas l'allure marathon qui va vraiment te mettre dans le rouge. Est-ce qu'il faut être vigilant ou est-ce qu'on peut quand même aller faire de l'allure marathon? Après, ça dépend du niveau de chacun, c'est sûr, mais Ilias, t'es pas trop d'accord, j'ai l'impression.
Moi, pour avoir fait une prépa marathon, j'ai trouvé ça extrêmement dur.
Ah, c'était dur, ouais.
Ouais. Et franchement, je me vois mal faire une prépa marathon pendant le ramadan.
Ouais, ouais.
Et j'ai fait une prépa plutôt axée ultra marathon des sables ou ultra trail pendant le ramadan. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple.
Oui, bah c'est pas voilà. Du tout le même effort, c'est sûr.
Ouais, ouais. Je pense que dès qu'on commence à mettre de l'intensité,
durée,
franchement, ça devient compliqué.
Il y a une durée de séance qu'il ne faut pas dépasser pour toi? Bon, toi, tu as fait 3 heures, mais sur des séances particulières. Mais...
Je sais pas. Moi, je ne me suis pas fixé vraiment de durée limite.
Ça dépend de ce que tu mets dans la séance aussi, quoi.
Ouais.
Bien sûr. Johan, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil par rapport à tout ça?
Les conseils, Ilias, il les a donnés. C'est de courir juste avant et de pouvoir derrière recharger l'organisme avec l'hydratation et l'alimentation direct après les séances de fractionner ou les séances spécifiques. C'est vrai que vaut mieux faire ça que faire sa séance à 11h et devoir attendre 19h le soir. Donc il faut aussi adapter, je pense, les horaires d'entraînement. Et puis comme on l'a dit, hein, c'est éviter vraiment toutes les séances trop intenses parce que courir à jeun, on en a pas trop parlé, mais je crois qu'à un moment donné aussi on tape dans les protéines musculaires quand il n'y a plus de glucides, musculairement on s'affaiblit et on a cette le corps puise dans les muscles et donc du coup tu peux te blesser plus facilement, donc faut aussi éviter de faire de trop ce qu'on a dit depuis le début, hein, de toujours trop en rajouter. Donc il y a les horaires, les intensités à respecter et les horaires à respecter. Et si tu fais ces deux trucs-là, normalement il y a moyen de de sortir de cette période-là ou de le fait de courir à jeun régulièrement le matin sans blessure ou sans perte de niveau, quoi, clairement.
Ouais, c'est allé dans son sens, je crois, Violette. Tu peux taper dans le capital musculaire aussi, si tu le fais trop.
Oui, c'est ça. En fait, quand le corps commence à manquer de glucides, il va réaliser un processus qui s'appelle la néoglucogénèse. Donc, il va être capable de refabriquer du sucre à partir des protéines. Donc, forcément, ces protéines, il faut bien aller les chercher quelque part. Il y en a quelques-unes qui circulent dans le sang sous forme d'acides aminés. Mais s'il n'y en a pas suffisamment, bah, on va aller chercher dans la masse musculaire. Et globalement, les séances à jeun nécessitent du coup plus de récupération, une nutrition un petit peu optimisée après. Donc il y a ce facteur-là, et il y a un autre facteur aussi, c'est que si les séances sont trop longues, on va se déshydrater, et que passé un certain stade, la déshydratation elle peut être problématique pour le risque de blessure et puis pour la santé en général. C'est pas bien de se déshydrater au-delà d'un certain point.
Donc tu perdrais tes pecs, quoi, Johan. C'est ça le problème. Ouais, ton corps irait chercher dans tes pecs.
Et ça, c'est grave.
Et ça, c'est grave.
Si j'ai plus de pecs, c'est grave. Autant j'imagine. Les cuisses ou les mollets, c'est pas grave, ouais, mais les pecs.
Sûr. Je comprends.
C'est la base.
Bien sûr. Violette, est-ce qu'il y a des aliments à éviter pendant cette période du Ramadan ?
Bah, pas spécialement, pas plus que d'habitude.
Pas plus que d'habitude.
Les mêmes que d'habitude.
Ouais, mais
tout
je sais
ce
pas,
qui est trop gras.
Ouais, les produits transformés. je sais pas, est-ce que consommer du fast-food, c'est une mauvaise idée finalement ? Parce que...
Bah, disons que globalement, soif. De se tourner vers des aliments qui vont avoir une bonne densité énergétique, ça permet aussi de réduire le déficit calorique. Donc d'un côté, il faut garder une alimentation équilibrée, okay. Mais de l'autre, manger riche, ça permet justement de compenser et d'éviter de finir sa journée à 1500 calories, quoi.
Ouais, d'accord. Mais parce que je pense aussi à la consommation de légumes, comment tu fais, par exemple ? Parce que c'est... D'une, t'as pas envie de ça, t'as envie de manger du féculent, j'imagine, Elias. Et surtout le matin, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu manges ?
Le matin, c'est vrai que je prends pas vraiment de légumes.
Bah ouais.
Même le soir, je mange... Enfin,
t'arrives
je mange
à manger
des
pâtes comme ça, du salé le matin, quoi.
Comme ouais, le jour de marathon.
C'est ça, ouais.
Ouais, ça, c'est dur. Du riz au lait, quoi. Moi, je pensais à ça l'autre fois. Ouais. Pourquoi pas, hein.
Ouais, pourquoi pas. Ouais.
Mais c'est quoi exactement alors ? Tu manges tes pâtes comme ça ?
Bah, je prends des pâtes ou du riz.
Tu mets pas de sauce bolognaise, quand même.
Enfin, peu importe.
Ah, t'y arrives ?
Ouais, ouais.
Ah, vraiment ? C'est pas un problème.
Non, non, non.
Ouais, c'est dingue. Ouais, ouais. Bon. Voilà pour les conseils. Est-ce qu'on peut donc rappeler les bons conseils nutritionnels avant de passer au bon plan dans un instant ? Les bonnes règles à respecter si on veut que cette période se passe bien, Violette ?
Bah, du coup, dans l'idéal d'avoir une prise hydrique et des apports alimentaires à proximité de la séance, donc soit de pouvoir manger avant de faire la séance le matin, soit de la faire le soir, soit juste après la rupture du jeûne, soit juste avant. Et puis de faire attention à conserver dans l'alimentation suffisamment de glucides, de protéines, un petit peu de fruits et légumes quand même, et surtout bien s'hydrater.
Produits laitiers, c'est pas un problème ?
C'est pas un problème, non. Un bon apport en calcium, en protéines, a priori ça pose pas de problème.
Ilias, conseil de toi à l'expérimenter ? Qu'est-ce que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent ?
Adapter les heures d'entraînement.
Pas que la nutrition, hein, mais tout l'entraînement, quoi.
De manière générale. Adapter le calendrier de compétition, adapter les heures d'entraînement, privilégier notamment le fin d'après-midi avant de manger pour les séances, on va dire, de qualité. Pour les séances d'endurance fondamentale et tout, je pense que ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Là, comme ça tombe l'hiver, y a quand même moyen de faire des séances de fractionner le soir après avoir mangé, un peu plus tard, vers 20h, 21h, je pense que ça peut passer. Et essayer quand même de pas se mettre trop dans le rouge, voilà. Et bien dormir, ça c'est hyper important. Ça, je pense,
là-dessus.
C'est un des trucs les plus importants, c'est ça. C'est vraiment le sommeil.
Toi, ta vie ne le permet pas parce que tu as une vie chargée entre l'entraînement et le côté pro, ta vie de chercheur.
Médecin.
Tu conseilles à ceux qui le peuvent de faire une sieste quotidienne ? C'est quelque chose qui peut apporter quand même.
Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Ça m'arrive de faire parfois le week-end. Ouais, ça peut être pas mal.
Ouais. C'est un conseil qu'on peut donner aussi, ouais, Violette ?
Oui, ça permet de compenser aussi.
Ah, le sommeil, c'est important. Ouais.
Toi, c'est surtout toi qui me dis ça. Toi, j'avais pas
le doute. Je vais pas dire le contraire. Hein.
Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais écoutez, c'était super intéressant. On espère qu'on a apporté beaucoup de conseils à ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, ou ceux qui couragent le matin, d'ailleurs, fixent des footings comme ça sur les différentes semaines d'entraînement. Donc voilà, pour tous les conseils, Ilias, Violette, vous restez là. On passe tout de suite au bon plan matos.
RMC.
Le bon plan matos.
Et c'est la marque Flitex qui est à l'honneur cette semaine dans RMC Running. On accueille son fondateur Hugo Huil qui est avec nous en direct. Salut Hugo.
Salut à tous, ça va ?
Bah ça va et toi ? On est ravis de te recevoir, une première dans RMC Running. Hein. Flitex est une marque spécialiste dans les vêtements de compression, mais qui a une histoire particulière parce qu'elle est liée à ta personne. Il faut que tu nous racontes tout ça, parce que tout part en fait d'une rupture du ligament du genou, je crois, en 2022. Hein. C'est comme ça que ça part, Hugo, en fait.
C'est ça, ouais. C'est, alors, l'histoire est longue. Je ne sais pas si on a le time, mais je vais essayer de vous la résumer. Bah, ouais, globalement, j'ai toujours aimé faire du sport, courir. Ça a toujours été l'axe un peu de mon défoulement. Et bah, un peu plus jeune, je faisais pas trop gaffe à mes articulations, à ma récupération. Et j'ai chuté. Alors, première fois en course à pied, je me suis fait une entorse du genou droit. Et ensuite, en faisant de l'escalade en bloc, sur les tapis, mauvaise réception, pas assez de renforcement articulaire sur la zone. C'est là où le ligament a craqué, tout simplement. Donc après, processus classique, hein, opération avec un bon chirurgien à Montpellier, rééducation, le kiné a été top. Mais le souci, c'est qu'à la reprise du sport, six mois après post-opération, en fait, tu n'as toujours pas forcément confiance à ta jambe blessée et remise. Tu as des faiblesses, donc tu gardes un peu des douleurs. Et en fait, l'autre jambe, qui était la jambe d'appui, qui pendant ces plusieurs mois ou même années parfois de compensation, bah, elle, en fait, elle a un peu souffert. Tu peux avoir un décalement du bassin, il y a plein de choses qui se passent. Et tu n'es toujours pas à l'aise sur ta reprise. Et en fait, bien souvent, on peut reprendre le sport bah, 3 ans après une blessure comme ça aussi forte. Et on garde, même là, ça fait des années, hein. J'ai toujours des gènes dans les articulations, c'est toujours un peu compliqué. Et en parlant souvent à des sportifs autour de moi, on est dans le même cas. C'est pas une question de la qualité du kiné ou de la rééducation, c'est que malheureusement, c'est des blessures qui sont quand même assez traumatisantes sur la zone, quoi.
Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots l'intérêt de porter des vêtements de compression ? Vous êtes spécialiste en plus des articulations, qu'est-ce que ça apporte concrètement quand on porte ce type de produit ?
Alors, il y a plusieurs choses déjà sur toutes ces blessures-là. Ce qu'on recommande fortement, c'est d'être suivi par un kiné, de faire la rééducation correctement et même après, de continuer le renforcement articulaire. La compression, alors, de manière générale dans le sport, ça permet d'accélérer la circulation. Donc, ça peut aider à récupérer et aider à réduire les inflammations. Mais dans notre cadre, nous, je vais faire la parallèle quand même, c'est des maintiens de compression. Ça va être un peu plus épais que de la compression. Ça s'inspire de la genoulière, mais ça ne réduit pas la mobilité. L'avantage de nos maintiens, ça va être de stabiliser davantage l'articulation, donc d'apporter plus de confiance et de sécurité sur la zone, et combiné avec la techno de compression, donc ça aide à réduire l'inflammation et accélérer la récupération. Donc je vais mettre quand même le bémol, c'est pas quelque chose à utiliser tout le temps, c'est plutôt à s'en servir dans les phases aiguës, donc quand on a de la douleur, ou quand on sait qu'on va mettre de l'impact, par exemple, sur des grosses courses ou alors de la préparation marathon, où on ne peut pas se permettre de rater des séances, sinon on va perdre sur l'efficacité, perdre sur l'entraînement. Voilà, il faut vraiment l'utiliser comme un outil et par contre continuer à bien renforcer l'articulation, continuer à essayer d'être, d'être le plus libre possible, c'est-à-dire courir sans forcément avoir de maintien externe. C'est ça qu'on vise dans le sport.
Hein. Ouais. Mais tu conseilles de l'utiliser sur des séances de récupération ou des séances d'intensité alors, si tu es sur une prépa marathon, par exemple ?
Moi, perso, j'utilise sur les deux.
Sur les deux, ouais. D'accord.
Ouais, je vais mettre les maintiens sur ma séance où je sais que je vais aller chercher des longues distances, donc du 15, 20, 30 pour la prépa. Et ensuite, je les garde 1 à 2 heures après l'entraînement, avant d'aller me doucher ou après la douche, je remets une paire pour aider à évacuer les déchets, accélérer la récupération, réduire les inflammations.
Je précise, après, ça dépend. L'orthographe de votre marque, hein, c'est Flytex, donc Flytex, pardon. Donc tu vois, on dit Flytex d'ailleurs. Vous faites du maintien et de la compression et ça concerne tout, hein, genoux, chevilles, épaules, coudes, poignets. En gros, tu t'adresses pas seulement à ceux qui sont entre guillemets en rééducation, qui ont eu des soucis articulaires. Même les coureurs qui ont la chance de ne pas souffrir de ces pathologies peuvent utiliser les produits, quoi, de toute façon.
Exactement. En fait, on a commencé avec une gamme de genoulières uniquement pour les personnes qui, comme moi, avaient des antécédents qui sont résolus par le médical, tout simplement, et qui, en fait, ont une gêne. C'est pour enlever cette gêne-là. On a eu aussi énormément de clients avec le temps qui viennent de l'arthrose, des personnes de 50 ans et plus qui ont couru toute leur vie, qui ont de l'arthrose. Et malheureusement, ça, c'est difficilement soignable. Ça les aide, en fait, à avoir de meilleures sensations en course et à prolonger leur pratique. Ouais. Et après, on a beaucoup de personnes qui vont se faire opérer ou qui sortent d'opération, qui mettent ça pendant la séance de rééducation, en fait.
Ça, c'est ceux qui vieillissent mal comme Johan Durand.
C'est ça.
Les mauvais vieux, quoi. C'est ça, ouais, je comprends.
Alors, je vais viser personne, mais voilà. Le cadre au début de la marque, c'est ça. Et on a développé donc un catalogue articulaire. Donc, on a de la cheville, du coude, maintenant même de l'épaule. Ouais. Et comme on nous l'a demandé, maintenant, on a aussi un catalogue de compression sportive. Récupération ou performance, des chaussettes montantes, du short avec compression intégrée, du leggings avec compression et maintien du genou intégré. Et on essaye de développer ça au fur et à mesure que nos clients nous demandent. On co-construit avec eux et on essaye d'innover à notre petite échelle, on va dire.
On vous retrouve où, Hugo, d'ailleurs ? Il y a le site Flytex, il y a des revendeurs aussi ?
Alors aujourd'hui, on est essentiellement sur flytex.fr.
Ouais.
On s'est lancé sur Amazon il y a quelques temps et on commence à être pas mal démarché par le B2B et des revendeurs. Donc on va commencer à vendre en physique, je pense, à partir du mois d'avril. Là, on est en train d'être approché, donc de faire quelques contrats. Mais ouais, en 2025, vous allez pouvoir nous retrouver chez les revendeurs sportifs uniquement. Et voilà, ça va être ça. On est aussi sur Instagram. Donc, @flytex.fr. Et sur mon Instagram aussi, @hugohuille, je parle pas mal des dessous de la marque. Je donne des conseils sur notamment mes prépas marathons, le renforcement articulaire spécifique, des choses comme ça.
Je vois ça. Je vois que tu veux prendre ta revanche sur marathon à Paris en 2025. On sera avec toi, mon vieux.
Exact.
Okay. Non, mais écoute, merci d'être venu. Johan, tu utilises un peu les vêtements de compression pour les mollets, pour
les
soulager un peu,
ouais.
Tout ça, ouais, les chaussettes.
Tout ce qui est chaussettes.
Sur footing de récup.
Ça peut m'arriver sur les footings de récup, mais c'est surtout, moi, ça va être pendant les périodes de voyage. Tu vois, quand tu fais, typiquement, j'ai fait 8 heures d'avion pour rentrer du Kenya, je peux te dire, j'avais des poteaux au niveau des mollets, et c'est vrai que les chaussettes facilitent le retour veineux. Quand tu restes assis pendant 8 heures et que tu ne bouges pas, que tu ne marches pas, c'est très compliqué. Donc effectivement, ces chaussettes de maintien, de compression et de retour veineux sont intéressantes dans ce cas-là. Et quand j'ai des douleurs musculaires au niveau des mollets, que je sens que les mollets sont un peu chargés, pour les compresser et les maintenir, c'est pas mal.
Vous les utilisez, vous, Violette et Elias, dans votre pratique sportive, les vêtements de compression pour les mollets, pour les cuisses, pour les...
Ouais, ça m'arrive pour les mollets, enfin pour les,
ouais,
les
pareil,
jambes.
Ouais.
Pareil, sous la jambe.
Surtout quand j'ai des douleurs parfois de périostite, je trouve que ça me... Ça permet de maintenir d'avoir un peu moins mal.
Avant qu'il soit trop tard, surtout.
C'est ça, ouais.
C'est sur Violette, toi, un petit peu ?
Ça m'est arrivé d'en utiliser un petit peu, pareil, mollet. Et puis, chaussettes de récup aussi, c'est de la compression aussi.
Bon. Hugo, merci. Bonne prépa à Marathon de Paris. Hein, et je précise que vous faites gagner dans RMC Running une paire de maintien de compression V2 pour genoux. Donc, c'est un beau cadeau hein, quand même. La valeur est élevée. Hein, c'est 80 euros. Donc, c'est là aussi un beau cadeau offert par Flytex.
Il faut avoir mal aux genoux.
Il faut avoir mal aux genoux ou alors il faut être précautionneux. Oui, c'est ça. On peut tous avoir des douleurs. Donc
prévention, douleur,
voilà, exactement.
Récupération.
Ça peut servir à tout le monde. Merci Hugo. Je précise que cette semaine, pour tenter de remporter ce magnifique produit, eh bien vous allez sur YouTube, justement la chaîne RMC Sport, les vidéos YouTube d'RMC Running. Le rail, vous allez le trouver rapidement et vous laissez des commentaires, comme ça nous aidera à grandir sur YouTube. Et vous pouvez postuler, le tirage au sort sera effectué la semaine prochaine et on désignera le vainqueur de ce magnifique produit. Merci Hugo, bonne prépa du Marathon de Paris. À bientôt.
Merci à tous, bonne chance, au revoir.
Bye bye, merci. Et un grand merci à Violette et à Ilyes qui était avec nous cette semaine. Courage Ilyes, voilà, ça démarre aujourd'hui. T'es prêt, ça y est, t'es armé psychologiquement ?
Ouais, c'est ça.
Ton humeur change prêt. Ou pas pour un mois ? Non ? Tu restes sympa quand même ?
Non, ça va.
Ok, ça va.
Je reste stable.
Bon, tant mieux. Violette, merci, tu reviens quand tu veux, dès qu'un sujet nutrition est abordé. Merci Maître Yodu, on est ravis de te retrouver en France. C'était magnifique. Et c'est Ilyes qui a choisi la musique de fin. Qu'est-ce qu'il a choisi, alors, notre docteur Isa ? Pas mal, Michael Jackson, évidemment, mais oui.
Mais non, c'est la pub du loto.
C'est ça. Oh là là. Bon, allez, merci à tous, merci à tous les trois, on s'est régalé une nouvelle fois. On vous salue tous, la communauté RMC Running, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Just
RMC Running.